France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Ryoko Sekiguchi. Alors merci pour Venise mille fleurs. Ce que j'aime dans votre livre, c'est qu'on vous sent, vous narratrice, avide de savoir, sensible à l'autre, à la nuance et au temps. On vous voit chercher et trouver des hasards si pleins de sens qu'ils continuent à nourrir votre récolte. J'ai aimé voir au fil des pages se tisser une histoire multisensorielle et cette sensation d'étendre en bonne compagnie mon champ d'exploration.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Une ville des fleurs, de l'eau et du temps, surtout aujourd'hui dans votre book club, en découvrant l'herbier qu'une certaine Hilaria compose au beau milieu du 19e siècle, l'autrice Ryoko Sekiguchi trouve la porte d'entrée qu'elle cherchait pour écrire sur la sérénissime Venise. En quelque sorte, elle se met, grâce à l'objet et à des dizaines d'années d'écart, à composer, en novice et en femme de lettres, un nouvel herbier pour la ville italienne. Qu'est-ce qu'un pétale séché peut nous raconter du temps passé ? Peut-on tomber amoureuse d'une fleur, d'une archive ? Que reste-t-il du biotope de la lagune vénitienne tant et tant traversée par les touristes sur les Vaporetto ? En se servant de l'herbier comme d'un guide à contre-temps, l'autrice japonaise entretient une correspondance protéiforme avec la ville elle-même, avec les habits et les amis qui l'habitent, l'histoire de l'art et des végétaux. Ryoko Sekiguchi est l'invitée de votre book club. Et en fin d'émission, on cherchera de la musique dans Venise. On est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour Ryoko Sekiguchi.
Bonjour.
Venise mille fleurs, c'est le titre de votre nouveau livre paru aux éditions POL. Soyez la bienvenue dans le Book Club. On est ravis de vous recevoir pour ce livre qui va vous promener, non pas à Venise, mais en France, dans les librairies. Vous serez à l'Arbre à Lettres. C'est ce soir.
Oui.
Ce soir, jeudi 8 janvier. Le 21 janvier, vous serez à la Maison de la Poésie à Paris. Le 29 janvier, à l'Atelier Paris Toujours. Puis vous serez ensuite à Toulouse, aux Ombres Blanches, le 10 février. À Passage, à Lyon le 24 février et à l'œil Cacodilate, merveilleuse librairie lyonnaise le 25 février prochain. Et puis je signale aussi que France Culture vous a passé commande de l'écriture d'un texte inédit. Le texte s'appelle Ondario. C'est aussi une sorte d'herbier, mais cette fois ce sera un herbier sonore ayant pour thème les ondes et il donnera lieu à une réalisation de Laurence Courtois en février 2026. On a hâte d'entendre. Ici tout commence, vous le savez peut-être, Ryoko Sekiguchi, par un questionnaire lecture. On fait connaissance avec nos invités en parlant de leur rapport au texte. Peut-être ça commence avec une génération passée. J'ai lu que vous aviez un grand-père maternel éditeur. Est-ce que ce serait un des liens premiers avec les livres ?
Oui, exactement. Parce que c'était, il était l'éditeur, mais tout à fait autodidacte parce que il n'a pas pu terminer ses études parce qu'il était parti à la guerre, tout simplement à cette génération-là. Et en revenant, en fait, il fait partie de ces gens pour qui la lecture n'est pas une évidence. Donc, il y avait un énorme amour pour l'acte de lire, et puis, enfin, il m'aimait beaucoup, donc c'est amour pour les livres, c'est amour pour moi, en fait, tout est mélangé, et je pense que c'est pour ça que j'ai tout de suite eu ce rapport très aimant avec les livres.
Ce serait lui la grande figure de transmission de votre amour pour les livres et de votre vie avec les livres, Ryoko Sekiguchi ?
Oui, tout à fait, parce que autant mon père, c'était vraiment le symbole de patriarcat. Il n'aimait pas. Enfin, il interdisait que je lise, il interdisait que je fasse les études. Donc, en fait, chez mes parents, je lisais en cachette.
Qu'est-ce qu'il voyait votre père comme risque dans la lecture pour la jeune fille que vous étiez ?
Ah, bah vous savez, enfin, très. Enfin, il disait que bien sûr, les femmes qui lisent sont dangereuses. Bon, voilà, c'est bien connu. Et puis aussi, il disait toujours, on devient insupportable, ce qui est mon cas. Et quand j'ai eu le concours d'entrée à l'université, et il m'a dit, ah, mais comme ça, tu n'auras plus ton mari, ce qui est mon cas. Et c'est très bien. Donc, voilà.
Ah oui, c'était forcément, ça allait vous rendre insupportable et ça allait vous empêcher de vous marier, mais ça a été une prophétie plutôt réalisatrice.
Voilà, donc
mais vous en êtes heureuse.
Donc, voilà, donc je vous remercie maintenant.
Aujourd'hui, vous vivez avec des livres autour de vous ?
Oui, et surtout quand je commence à travailler, quand je commence en fait sur un livre, un nouveau livre, je commence par acheter en fait tout ce qui concerne les
sujets.
Oui, bien sûr. Et en quelque sorte, en fait, on écrit pour lire aussi. Et donc c'était le cas aussi pour Venise, c'était le cas aussi pour Beyrouth. Et chaque fois, je constitue une sorte de petite bibliothèque au sein de ma bibliothèque et juste à côté de mon bureau. Et comme ça, je suis toujours avec le thème, par exemple, de oui. Venise et les livres autour de ce thème-là.
Quand vous disiez lire en cachette dans cette maison où votre père vous le déconseillait, voire vous l'interdisait, vous lisiez quoi dans l'enfance ?
Tous les livres, donc c'était les livres justement achetés par mon grand-père, mm-hmm. et surtout la littérature, donc la littérature de jeunesse, mais étrangère. Je pense que c'est comme ça que j'ai appris le rapport avec la langue, parce que, bon, bien sûr que c'était des livres traduits, et donc je sentais une sorte de maladresse, mm-hmm. une langue qui n'est pas lisse, et j'aimais beaucoup ça. Par exemple, je donne juste un nom, c'était français. Donc c'est Léopold Chauveau, donc c'est cet écrivain de début du XXe siècle, anarchiste, ami de Martin Dugard, qui était un peu à un côté oulipien, qui écrivait des histoires qui commençaient par la fin, mais en même temps qui était vraiment teinté par le trauma de Première Guerre mondiale et son fils qu'il a perdu pendant cette période-là et qui fait qu'il a écrit les histoires pour les enfants comme une sorte de dommage à son fils.
Et ça, vous découvrez ça dans une traduction vers le japonais ?
Oui.
À ce moment-là ?
Ah, ouais. Oui. Et c'était extraordinaire. Et puis aussi, je pense que toutes ces mauvaises, entre guillemets, traductions, par exemple, dans le Mary Poppins, donc il y a souvent les interjections comme mon petit chat, mon petit chou, qui étaient traduits tel quel, qui n'existe pas en japonais. J'ai dit, mais où est-ce que
Où y a-t-il un chou? Donc il y avait quelque chose presque dans la bizarrerie en fait que produisait la traduction dans votre langue.
La résistance de la langue, oui. Mmh. Oui.
Quand vous arrivez à Paris, qui est un moment important dans votre biographie, Ryoko Sekiguchi, et que finalement la France devient plus qu'un deuxième pays, et ça devient vraiment votre pays, oui. L'endroit dans lequel vous vivez, dans lequel vous travaillez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change dans votre vie de lectrice ? Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là ?
Alors oui, concrètement, je pense que j'essaie de lire à peu près 70% de livres en japonais, parce que sinon la langue maternelle...
Aujourd'hui encore ou à ce moment-là, à l'époque ?
Aujourd'hui encore, ouais. parce que je continue à écrire dans les deux langues, mm-hmm. je continue à publier en japonais aussi, mm-hmm. et sinon la langue maternelle, bien sûr, elle peut partir, elle peut rester la langue maternelle, mais elle peut ne plus devenir la langue d'écriture. Mm-hmm.
Voilà. Et vous tenez à garder profondément ces deux langues pour vous ?
Ah, c'est... Oui.
Bien sûr.
Oui, oui, comme les doux pieds, comme ouais. disait Beckett.
Vous avez d'ailleurs à côté de vous des livres, vous êtes venu avec des livres, tout le monde ne fait pas ça. Quels sont les livres que vous avez apportés ?
Non, mais voilà, donc je voulais.
Je vois qu'ils sont en japonais.
Ça, c'était Léopold Chauveau. Et puis.
C'est le livre dont vous parlez.
Oui, ouais. oui, l'illustration, c'est aussi Léopold Chauveau.
C'est magnifique comme édition.
Oui. Et je pensais, enfin, un classique, bon, bien sûr, Tanizaki, parce que chez Tanizaki, c'était surtout le souci pour les formes, pour les genres littéraires.
Mais quand est-ce que vous découvrez
ça, c'était quand j'étais lycéenne. Mais,
en japonais, du coup.
En japonais, oui. En japonais. Parce que lui, en quelque sorte, c'est un traducteur, parce que il a traduit le Dido Genji dans le japonais moderne, et il était originaire de Tokyo, mais il s'est installé dans le Kansai, dans l'Ouest, et il commence à écrire les conversations dans le dialecte de l'Ouest. Donc c'est une sorte de travail de traducteur aussi. Mmh. Et aussi, donc il a écrit écrit à la fois donc les romans, disons entre guillemets classiques, le polar, les scénarios pour les théâtres. Il y a en fait les essais. Donc c'était, je pense, que quelqu'un qui était profondément passionné par tous les genres littéraires. Et ça, c'est ce qui m'intéressait vraiment beaucoup.
Il se trouve que Louange de l'ombre, vous en avez produit une traduction pour les éditions Philippe Piquier, Ryoko Sekiguchi, et que c'est aussi une autre manière de lire pour vous, qui a un rapport, en tout cas, à la traduction qui est présente dans votre vie de lectrice. Est-ce que ça vous rend lectrice particulière? Parce qu'on sent, finalement, dès l'enfance, dès le début de votre rapport au livre, la question de la traduction, elle est présente, en fait.
Oui, et je pense qu'il y a une lecture seulement possible en traduisant. Même si en lisant, je ne sais pas, 30 fois un livre, le même livre, si on ne traduit pas, on ne peut pas comprendre certaines choses. Et donc, tous les livres qu'on aime, tous les auteurs qu'on aime, j'essaie de le traduire.
Vous les lisez en traductrice. Ah oui.
Et c'était le cas de... voilà. Donc,
Daniel Heller, Roazen. Alors, c'est quoi Ecolalie?
Ecolalie, c'est sur l'oubli des langues. C'est vrai que moi, j'écoute souvent votre émission et souvent les gens parlent dans son rapport avec le roman, par exemple, un romancier, une romancière. Mais c'est vrai que je lis beaucoup de livres de l'histoire de l'art ou bien de la philosophie. Et lui, il fait partie de mes sources, mais vraiment intarissables de d'inspiration. Donc c'est pour ça que c'est un peu comme le restaurant qu'on aime bien mais qu'on n'aimerait pas trop donner l'adresse parce que voilà,
on le garde secret.
Oui. Et donc il est assez inclassable parce qu'il touche à, par exemple, il a écrit un livre intitulé l'ennemi de tous, le pirate contre les nations, l'archéologie de toucher, le cinquième marteau, Pythagore et le désharmonie du monde, langue obscure, l'art des voleurs et des poètes. Voilà. Donc, ne serait-ce que les titres. Donc,
oui, ça ouvre déjà un champ d'exploration très, très vaste. Et donc, ça, Daniel Heller-Roazen, sur l'essai sur l'oubli des langues, Ecolalie, c'est vraiment un livre qui, comme son nom l'indique, réfléchit à notre oubli des langues?
Oui, et dont, à la fois dans la littérature, dans la psychanalyse et dans le linguistique. Et c'est vrai qu'à chaque fois, inconsciemment, en fait, dans presque tous mes livres, il y a les échos, enfin justement, échos de...
De
Ecolalie.
Incroyable. Ça donne très envie.
Voilà.
Bon, mais on va parler de votre livre à vous, Ryoko Sekiguchi, sauf si vous voulez aller au bout de votre pile. Il y a un livre jaune qui, j'avoue, en dessous de chez Verdier, c'est quoi ce dernier livre? Je profite du fait que vous soyez venu les mains pleines de bouquins.
C'est le livre de recettes de l'Afrique du Han. C'est vrai que j'aime beaucoup les livres de recettes, surtout écrits par les auteurs. Voilà.
Hyper belle édition, quoi. C'est vraiment magnifique.
Sur la cuisine créole.
Déjà que je suis pas tellement capable de suivre une recette, donc là, vraiment, en japonais, sur la cuisine créole. On me retrouve au fond du puits. On va parler de votre livre à vous, juste après cette chanson d'Andrea Laszlo de Simone qui s'appelle Fiore Mio.
Come i cieli e il fumo, tutto il tuo corpo è acceso di biancore, splendono gli astri metallici e bianchi, tutto si infrange e cade, è come il fiore il frutto, dormi sui miei dolori, splendono gli astri metallici. Fiore mio, fiore della occhi per stare al sicuro. E si illumina il cielo per farti vedere il futuro. Ed il giorno scaccia i pensieri e si muove al mattino. Ed io aspetto per ore per poterti stare vicino. Ed il buio rapisce i tuoi giorni anche ieri passato. E ha portato via tutto lasciandoti un cielo stellato. Splendono gli astri metallici e bianchi. Fiore mio, fiore della mia anima. Splendono gli astri metallici e bianchi.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Un herbier. Au programme de votre book club, un herbier du 19e siècle que compose une certaine Hilaria. Par cet herbier, vous êtes en mesure, Ryoko Sekiguchi, de vous faire une nouvelle amie, à près de 200 ans d'écart, le dialogue avec les disparus ne vous ayant jamais fait peur, en mesure aussi de parcourir Venise, la ville où fut composé l'herbier, comme guidé par lui. Au fil des pages, se tisse alors une correspondance hétéroclite, un millefeuille de temps et de matière, des formes de vie, dialoguant entre elles notamment à partir de leur vulnérabilité. Venise, mille fleurs, c'est le titre de votre dernier livre paru aux éditions POL. Et on va commencer par la rencontre avec l'herbier.
À dire vrai, je ne pouvais pas m'empêcher de prendre rendez-vous avec cet herbier, comme on a le désir de revoir la personne qu'on aime. À la façon des livres anciens, il se dégageait de cet ouvrage une atmosphère physique qui lui était propre. Le papier, épais, d'un aspect étonnamment délicat, avait peu souffert du passage du temps, qui pourtant aurait dû le jaunir. Le toucher de la couverture en cuir avait le toucher d'un doux coussin protecteur. En soulevant la feuille translucide qui recouvrait les spécimens botaniques, l'odeur des plantes enfermées entre les feuillets me caressait soudain le visage, telle une fée taquine qui serait venue m'effleurer les cheveux. Outre l'odeur commune aux fibres végétales sèches, j'étais surprise que chaque plante ait conservé son parfum distinct, alors qu'elles étaient toutes enfermées dans un seul livret. Ces odeurs, endormies paisiblement, j'avais l'impression de les avoir réveillés brutalement et je craignais de les laisser s'échapper à tout jamais, comme si j'avais ouvert la boîte de Pandore. J'étais partagée entre l'urgence de refermer les pages et la tentation presque sensuelle de continuer à respirer ces odeurs à plein poumon. C'était, je dois l'avouer, un moment d'intimité pure qui se déroulait dans l'après-midi, en secret, entre l'herbier et moi.
C'est la rencontre par laquelle nous commençons, Ryoko Sekiguchi. On est tout au début de votre livre Mille fleurs, Venise, mille fleurs. Et on sent que c'est une rencontre d'une très grande intimité, d'une très grande sensualité, sensorialité aussi. Finalement, quand on entendait dans l'extrait qui vient d'être lu l'idée du secret, on vous retrouve presque enfant lisant en secret les livres interdits par votre père. Comment se passe la rencontre avec cet objet ?
Cette rencontre, je dois avouer, je ne m'y attendais pas, parce que quand j'ai pensé à écrire sur une autre ville que Beyrouth, sur ce que j'ai déjà fait pour un autre livre, je pensais donc aller à la rencontre des personnes, mais c'est le livre qui est venu à moi. Et c'est un livre, mais, et comme vous dites, c'est un objet, mais j'avais presque l'impression que c'était un corps. Mm. C'était un corps de cette femme, et j'avais l'impression, en touchant ces feuilles, ces pages, j'avais l'impression de indirectement de la toucher.
Alors justement, cette femme, on connaît son prénom, Ilaria, on connaît la date, 1830-1831, donc on est vraiment au beau milieu du 19e siècle. Qu'est-ce que vous savez d'elle avant de commencer à lire cet herbier qui, petit à petit, on va le voir avec vous, en vous suivant dans votre lecture, dans votre cheminement. C'est un herbier qui touche aussi à la forme du journal, voire du journal intime. Que savez-vous d'Ilaria au moment où vous commencez cette aventure avec l'herbier?
Alors, rien. Et je pense qu'à vrai dire, si je savais quelque chose, je ne sais pas si j'aurais fait un livre sur elle, parce que justement donc cette famille qui me confie l'herbier donc appartenant à la famille, elle dit qu'elle connaît pas grand chose de elle, parce que qu'elle ne s'était pas mariée, qu'elle n'a pas d'enfants, et peut-être je pense que très exactement cela, ce point-là qui m'a intéressée, parce que j'ai vu en elle, enfin j'ai senti en elle quelqu'un qui n'était pas dans la norme, disons, de l'époque. Je pense que qui devait en fait vivre une certaine solitude aussi, et c'est ça qui m'a vraiment intriguée.
Alors, si on essaie de décrire cet objet-là, même si on sent qu'il a tout de suite des pouvoirs qui excèdent largement sa matérialité, mais donc c'est quoi? C'est une sorte de liasse de feuilles dans lesquelles il y a des petites fleurs, plutôt petit format d'ailleurs, vous dites.
Oui. Et un peu comme entre A4 et, enfin, dépassant un peu un A4. Et en fait, quand je dis liasse, parce que c'était quand même, c'était relié, mais comme il y avait des
végétaux.
Végétaux, donc ça gonflait.
Ça gondole, bien sûr. Oui.
Et donc ça donnait un peu comme une sorte d'un petit, presque coussin, en fait.
Qu'est-ce que vous savez des végétaux et des fleurs au moment où vous vous lancez dans cette aventure? Et est-ce que l'idée que votre savoir balbutiant sur les fleurs et sur l'herbier va vous servir de guide? Est-ce que c'est un étonnement pour vous, ou au contraire c'est la continuation d'un parcours qui est aussi un parcours que vous avez avec tout ce qui est sensible autour de vous, Ryoko Sekiguchi? On vous a déjà finalement vu procéder de cette manière-là, en suivant presque la piste des choses sensibles.
Je me suis rendu compte qu'en fait, finalement, il y a une vingtaine d'années, j'avais déjà fait un livre sur les jardins botaniques. C'était le recueil de poèmes, je pense que c'était en 2003, sur les jardins botaniques de Lisbonne, et sur les noms cachés des plantes, les noms qui ne sont pas prononcés, c'est-à-dire les noms scientifiques. Et donc, c'est à la fois officiel, mais qui ne sont jamais prononcés comme tels. Et donc, c'est vrai qu'il y avait cette passion sur les plantes qui restaient en moi, en fait, toujours reliées avec les villes.
Justement, on peut dire que presque, ça vous sert presque d'une sorte de guide, cet herbier. C'est très étrange, c'est que d'un seul coup, on le voit se transformer. À la fois, ça vous fait voyager dans le temps, puisque vous êtes relié avec un être mystérieux de 1831, mais ça vous fait aussi voyager dans la ville. On a l'impression que vous pouvez lire la ville en même temps que vous feuilletez l'herbier de Ilaria. Comment vous vous en servez concrètement? Ça devient une sorte de presque J-mode d'emploi pour la ville de Venise?
Ah oui, non, mais c'est un guide. C'était un guide, et je pense que chacun qui visite une ville, maintenant, je suis convaincue, doit avoir le guide. Et si possible, un guide de quelqu'un qui, d'une autre époque. Donc, j'ai acheté des livres, par exemple, bon, bien sûr, les cartes historiques, et aussi les livres, par exemple, sur les îles, l'histoire des îles autour de Venise, parce que il est question de ça aussi, des îles aux alentours, et aussi il y a eu beaucoup de changements au 19e siècle, mine de rien, qui est arrivé à cette ville. Donc, par exemple, il y a un livre de toutes les églises qui ont disparu, ou bien qui ont été brûlées, enfin qui sont reconverties, et par exemple, ça me servait un autre repère pour savoir en fait par exemple les lieux dont parle Ilaria, qui est où se trouve là actuellement, par exemple, et je commençais par suivre ses pas.
Oui, parce qu'il y avait l'idée de pouvoir enquêter à 200 ans d'écart presque sur les endroits où elle a fait ses récoltes de plantes et de fleurs. Existe-t-il encore? Est-ce qu'une plante pourrait encore pousser à cet endroit-là? Qu'est-ce qui demeure une fois ce temps passé? Ça vous permet aussi de regarder... c'est pour ça que le titre est très bien trouvé, ce mille fleurs qui appelle le mille feuilles. Oui. Ça vous permet presque de superposer deux cartes, voire 10 cartes en même temps, Ryoko Sakiguchi.
Oui, exactement, parce qu'il y avait des quartiers, eux, je pouvais presque tracer ses pas, mais vraiment, j'avais l'impression d'être elle-même. Et à certains quartiers, non, certains quartiers, par exemple, le quartier de la Biennale, enfin, des Jardini, par exemple, qui a eu un changement, mais drastique, et donc, j'avais du mal à retrouver les lieux, ou bien les bâtiments, récolter les plantes sur le mur, par exemple. Donc, c'est un guide parce que, avant même de lire les livres sur le temps moderne de la modernisation de la ville, donc la sélénisme, c'est cet herbier qui m'a appris où et comment a eu lieu ces changements.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien que l'attention portée aux fleurs et aux végétaux vous propose de regarder en dehors du bâti, vous propose de regarder une autre histoire. Je parlais du fait de se relier plus à la vulnérabilité, c'est-à-dire que c'est pas la pierre que vous regardez, ce sont pas les vieilles églises, ce sont pas certaines rues, c'est la potentialité de pousser. Et vous racontez finalement un lien avec un temps contemporain récent, c'est 2020, la pandémie, d'un seul coup, cette ville est vidée de ses touristes et oh, les herbes reprennent leur liberté. Il y a des endroits où elles recouvrent quasiment les pavés. C'est dire aussi qu'il y a une sorte de modification de l'espace très possible en lien avec les végétaux.
Ah oui, exactement. Et puis aussi, ça nous permet tout d'un coup aussi de d'imaginer à l'époque, la municipalité ne nettoyait pas le sol comme ça, que peut-être au 19e siècle, il y avait aussi des herbes folles qui poussaient au coin des rues. Donc tout d'un coup, à l'époque de pandémie, apparaît une sorte de le retour
presque la passé, fantôme d'une ville ancienne. On va entendre la voix d'une autre femme, écrivaine Chantal Thomas, qui elle aussi s'est intéressée à Venise. Elle est ici au micro de Colette Fellous en 1999 pour France Culture.
Contre toutes les descriptions qui immobilisent le désir, c'est important de vivre Venise, et c'est en fréquentant des Vénitiens que j'ai compris ça, c'est important de vivre Venise au-delà du pittoresque, sans s'arrêter justement à ce qu'il faut voir, mais en étant rappelé à ce qui, dans Venise, porte plus loin nos passions fondamentales et notre sens de la beauté originelle. Et moi, je sais que ce que j'ai d'abord vu dans Venise, ce ne sont pas les œuvres d'art que j'ai mis beaucoup de temps à comprendre et à apprécier, mais c'était une sorte de passage à la limite d'une vision qui, quand j'étais enfant, m'avait toujours ravie, qui était une petite île sur Piloti, où il y avait trois maisons, l'île aux oiseaux, et il y avait simplement ces trois maisons et les mouettes, et plus loin, des huîtres. Et Venise, c'était comme cette même chose, mais étendu aux proportions d'un véritable trésor. Et ce que j'avais pris pour un espace fragile de pêcheur devenait tout d'un coup l'exploration de tous les possibles architecturaux et comme un bijou répandu sur la mer.
La beauté de Venise ne résiderait-elle pas précisément dans ce qu'elle parvient à transformer les êtres ? En les rendant capables de s'émerveiller de la grâce du monde. Tant que la Sérénissime continuera d'ouvrir le cœur des humains pour qu'ils puissent accueillir encore et toujours le miracle d'être en vie, elle restera sublime. Si d'aventure elle perdait ce don, elle ne serait plus qu'une coquille vide. Si les habitants, enchantés comme des enfants par la poésie du lieu et prêts à s'unir pour la préserver, venaient à disparaître, l'île aussi mourrait. Les Vénitiens qui aiment leur ville tiennent dans leurs mains les petites perles de verre qui constituent son âme. Plus ils seront nombreux, plus cette âme continuera à s'épanouir à travers les âges.
Un nouvel extrait de votre livre, Ryoko Sekiguchi, Venise, mille fleurs et la voix si belle, toujours si agréable à entendre de Chantal Thomas, qui parle finalement des passions fondamentales anciennes, du rapport à la beauté. C'est en écoutant Chantal Thomas et en l'écoutant faire le lien entre son rapport à Venise et les petites îles de son enfance en France, que je me suis souvenue que vous aussi, vous aviez un archipel d'enfance et que finalement, il y a aussi ce lien avec le Japon et les îles qui composent le Japon et le fait que c'est peut-être un des liens souterrains peut-être qui vous relie à Venise.
Ah, c'est... Oui, non, mais c'est vrai parce que il y avait des repères, qui me rassurait, par exemple, comme cette odeur de l'eau stagnante, qui est pas agréable pour ceux qui ne connaissent pas. Mais en tant que japonaise, je me suis presque sentie chez moi. Mmh. Donc il y avait ce côté-là qui ne relie sous ce signe de d'archipel.
Et puis on entendait aussi dans votre texte l'idée d'une ville qui ouvre le cœur des humains à la beauté, les Vénitiens et Vénitiennes qui portent avec eux une petite perle de verre au creux de leurs mains. C'est vrai que c'est une ville qui appelle ça, c'est vrai que c'est ce qu'elle... Il suffit de prononcer son mot pour que le mot beauté arrive très peu de temps après. Écrire sur Venise, c'est écrire sur le rapport qu'on entretient avec la beauté, Ryoko Sekiguchi.
Ça fait partie des thèmes et le défi, parce que je sais que c'est un piège, bien sûr, tout le monde a écrit sur Venise, et aussi on peut tout à fait tomber en fait sur les clichés
et aussi l'aspect figé aussi dont parlait Chantal Thomas, c'est-à-dire échapper au côté très muséal de cette ville contemporaine.
Oui, bien sûr. Et je ne nie pas cette beauté muséale. Enfin, moi qui adore les musées, il y a pas de problème à ça. Mais je pense que avec l'herbier, j'étais plutôt à la recherche de ce que la ville de Venise voulait vraiment être. Si je pouvais écouter la voix de Venise, qu'est-ce qu'elle me raconterait? Qu'est-ce qu'elle nous raconterait aussi, en fait, ce que... Et bien sûr, il y a cette beauté qu'a créé les hommes du passé avec les pierres. Et il y a aussi en lien, en échange, toujours, en dialogue, toujours avec ses habitants, le monde aquatique et aussi le monde des végétaux. Et je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'il y a cette doux beauté qui existe dans Venise.
Vous décidez que votre herbier ne sera pas fait que de végétaux, Ryoko Sekiguchi, mais aussi de voix, de rencontres. Vous allez à la rencontre de Vénitiens que vous ne connaissez pas. Vous allez à la rencontre de Vénitiens et Vénitiennes que vous connaissez. Vous êtes là aussi toujours un peu guidé d'une certaine manière. On vous sent ou on vous voit, la narratrice de ce livre-là, déambuler. On va entendre la voix d'une professeure d'architecture qui s'appelle Andreina Zitelli, qui parle de la place fondamentale de l'eau à Venise. Et juste après, un nouvel extrait de votre texte.
Ici, l'eau est inséparable de notre histoire. C'est comme demander à quelqu'un qui vit à la montagne le lien qu'il a avec la neige ou les sommets. Pour nous, l'eau, ça représente tout. Quand un Vénitien sort de chez lui, je sais que son œil va se poser tous les jours sur la couleur de l'eau, ses variations, ses très légers dégradés vert et gris. Je crois qu'ici, on voit différemment les choses de ceux qui ne sont pas Vénitiens.
Credo che noi sappiamo vedere in maniera diversa dagli altri che non sono veneziani.
De quelle manière ce regard est différent?
Je ne saurais vous dire, mais voir cette eau, c'est pour nous, c'est une émotion continuelle, douce mais bien présente, silencieuse. Il n'y a pas un Vénitien qui sorte de chez lui sans regarder autour de lui.
J'ai récemment fait la connaissance d'Anna, une Vénitienne de 83 ans qui m'a confié avoir une relation particulière avec l'eau. Elle pratique la nage depuis l'enfance et n'a jamais cessé depuis. En son temps, il y avait à côté de Venise un îlot qui apparaissait seulement à marée basse, entre l'île de Sant'Elena et celle de San Giorgio Maggiore, où son père l'emmenait en bateau après l'école le temps d'une baignade. Plus tard, elle a appris à naviguer. Elle affirme n'être jamais tombée à l'eau ni n'en avoir aucune crainte. Quand elle est sur une barque, elle se sent toujours bien et entière. pour elle le sentiment le plus libérateur qui soit. Je n'oublierai jamais la joie qu'exprimait son visage tandis qu'elle en parlait. Elle avait un sourire aussi beau que les vagues de la lagune, si beau que je me suis demandé si j'avais moi-même connu un tel sentiment de liberté. Cela m'a donné envie de monter à bord de son bateau et d'apprendre à naviguer. Traditionnellement, il n'est pas rare de voir les Vénitiens, hommes ou femmes, voguer sur l'eau. L'eau est omniprésente, pour eux, tout au long de leur vie.
À partir de quand, Ryoko Sekiguchi, vous vous êtes dit que, en guise de plante, il y aurait les voix de celles et ceux que vous rencontrerez, par exemple ici celle d'Anna, octogénaire qui nage volontiers. Finalement, toutes ces voix-là, elles peuplent votre nouvel herbier d'une certaine manière.
Je pense que c'est au moment où j'ai compris que les voix, bien sûr, c'est une onde, et comme l'eau. Qui est une onde et qui finalement c'est cela qui nourrit bien sûr les plantes et qui verse les pilotis qui est le fondament de la ville. Donc je pense qu'en fait tout est lié dans cette ville, les ondes de la mer, les ondes de la lagune, les voies, les plantes qui vivent avec ses ondes, avec ses vagues, et voilà. Donc.
Oui, d'ailleurs, vous parlez d'un film qui m'a rendu très curieuse, que je n'ai pas vu, qui s'appelle 32 Sounds, de Sam Green, où il est vraiment question des sons de la ville, d'être à l'écoute d'une certaine manière de tout ce monde qui bruisse. Et puis il y a une autre voix que l'on entend, c'est la vôtre qui s'adresse à Ilaria. Il y a vraiment une forme de correspondance qui se met en place. Quelle sorte de correspondance vous avez avec cet être de 1831?
Oh, j'étais amoureuse d'elle. Il n'y avait pas un jour où je ne pensais pas à elle. C'était incroyable. Vous savez, ce genre d'amour, mais quand on est adolescente, on pense à... Je pensais à elle, mais vraiment chaque seconde. Et c'est mon premier roman, en fait. Je suis premier romancière. Et c'est vrai que sa vie, je ne pouvais qu'imaginer.
Ben oui.
Donc, ma pensée était toujours portée par elle. Parfois, je ne savais pas trop si c'était à elle ou bien à Venise que j'adressais les lettres. Et c'est une sensation très très étrange.
Comme si ça se superposait, quoi. Il y avait une sorte d'entité qui était moitié cette femme qui a vraiment existé, qui a vraiment fait cet herbier entre 1831 et 1836, et l'histoire entière de Venise, quoi.
Oui, parce que à chaque coin de rue, je pensais que Ilaria aurait pu passer par là, donc on pouvait passer par là aussi, et ce qui était peut-être vrai aussi. Et en même temps, je pensais à beaucoup d'autres femmes. De cette époque, de l'époque après, les femmes que j'ai connues, donc Anna qui est octogénaire, et je me suis fait beaucoup d'amis femmes de ma génération aussi, donc comme les ondes de la mer et de la lagune faisaient écho aux vibrations des plantes, aussi je pense que ce qui pourrait être la figure de Ilaria faisait écho aux femmes vivant à Venise.
Absolument, il y a vraiment eu immédiatement quand même comme une sorte de filiation ou de réseau végétal, quelque chose d'immédiat entre les fleurs et les femmes, en fait, femmes du passé, femmes du présent, enfants aussi. Mm-hmm. Ryoko Sekiguchi, on a entendu ce passage qui évoque Anna qui aime nager, mais très très rapidement après dans le texte, vous évoquez ces femmes qui pour se remettre d'un cancer du sein rament et sont dans une association où elles rament pour aller vers la rémission, comme si vous guettiez, oui, toutes les femmes du présent
à quel point cette ville, elle pouvait vivre encore, quoi.
Ah oui, oui, mais à tout moment, donc ça pouvait être elle, ça peut être Ilalia, ou bien Ilalia pouvait être... Et voilà, donc oui. À tout moment, je me disais, si elle était là, qu'est-ce qu'elle aurait pensé, qu'elle aurait fait, et c'est une sorte de... Il y avait une sorte de superposition de temps qui était assez étonnant.
Mais comme un rapport à un fantôme un peu indéterminé, on vous a déjà vu dans des livres Ryoko Sekiguchi en rapport avec les fantômes, c'est pas du tout quelque chose qui vous est étranger, l'idée de pouvoir tout à fait communiquer avec des êtres qui ont vécu des dizaines, voire des centaines d'années avant vous.
Alors, Ilalia n'était pas un fantôme.
Ouais.
Ilalia, c'était... C'est une
présence, quoi.
C'est une présence. C'était beaucoup plus vivant. Et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné, je me disais, est-ce que c'est Ilalia, est-ce que c'est Venise?
Il y a dans votre livre, Ryoko Sekiguchi, des extraits de textes, parce qu'on l'a dit, cet herbier comporte aussi des écrits, ce qui transforme l'herbier en une forme de journal intime, et ce qui vous a fait aussi vous poser des questions sur la possibilité ou non de le partager avec vos lectrices et vos lecteurs. On écoute un extrait de votre livre.
Herbier d'Ilaria numéro 11. Le revers droit d'une moitié de feuille de figuier, de la taille d'une main d'homme adulte, est fixé sur la page. Cette feuille semble avoir été découpée à la main plutôt que taillée avec des ciseaux ou un couteau, mais elle n'est pas non plus déchirée. On perçoit une attention minutieuse à la découpe. Dans sa partie la plus épaisse, plus proche de la tige, seules les nervures restent comme dentelées, et l'on suppose ainsi que les limbes de la feuille se trouvaient sur la partie manquante. Cette mention, le 28 février 1836, le lieu n'est pas précisé. Une mère, contrainte d'abandonner son nouveau-né devant l'orphelinat contre son gré, déchire une carte à jouer et en donne une moitié à tenir à son bébé en conservant soigneusement l'autre moitié pour elle-même. Si par un coup du sort, la mère et l'enfant parviennent un jour à se retrouver, ils pourront savoir si l'enfant est bien de sa mère en assemblant la carte à jouer. Pourquoi une carte à jouer? Pourquoi n'est-ce pas une feuille de figuier?
En lisant ce passage, ou en peut-être en lisant par-dessus votre épaule, lisant ce passage de l'herbier d'Ilaria, je me suis dit que c'était presque une clé de ce livre-là, Venise mille fleurs, la possibilité qu'il y ait un herbier jumeau, que l'on puisse faire se rejoindre l'autre moitié de la feuille de figuier. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez ressenti en découvrant cette étrange pratique?
Alors oui, c'est vrai qu'en fait, je l'ai par la suite, je l'ai vu dans d'autres endroits. Donc en fait, il paraît que c'était une coutume en fait qui existait vraiment.
De déchirer une carte à jouer.
Oui, et pour quand on
retrouve l'enfant éventuellement.
Oui. Et j'ai pensé à ce moment-là, c'est étrange de dire que la littérature. Certes, à quelque chose. Je pense qu'il y aura beaucoup de d'amis écrivains qui ne seront pas d'accord avec moi, mais je voulais que ce livre servirait à quelque chose. En fait, j'ai écrit, je dirais plutôt que j'ai écrit ce livre pour Venise que sur Venise. Et c'est vrai que si je reviens à cette histoire de la littérature de jeunesse où il y a toujours un autre monde qui est autre monde que la réalité qui agit sur la réalité, qui en fait il y a une sorte de dépanchement de la poésie vers la réalité. Je voulais que ce livre-là fasse quelque chose sur la réalité en fait.
Et fasse quoi?
Je voulais que la ville continue à vivre. Continue à vivre comme elle souhaite. être toujours entouré des végétaux. Je pense que pour moi, la définition de la littérature, en tout cas pour moi, j'écris pour que personne ne meure. Et voilà, y compris la ville.
Il y a quelque chose dans ce geste qui est très bouleversant. Donc cette mère qui doit abandonner un bébé en déchirant une carte à jouer, avec l'espoir qu'un jour peut-être ils pourront se retrouver. Et l'idée que vous trouvez une feuille mystérieusement découpée en deux, oui. Une feuille de figuier, ça veut dire aussi que ça vous permet de fantasmer à partir de là, Ryoko Sekiguchi, c'est-à-dire est-ce qu'il existe quelque part l'autre moitié de la feuille de figuier? Est-ce que c'était pour est-ce que c'était pour un enfant abandonné? Est-ce que c'était pour un amour?
Peut-être, j'ai pensé plutôt à un enfant. Et j'ai pensé plutôt que peut-être qu'il y a quelqu'un qui provient de Dialia, qui est un co-vivant.
On dit que, peut-être qu'elle a un enfant caché, cette femme qui n'avait pas de mari et qui était marginale.
Ouais. Voilà. Et comme ça, peut-être qu'il y aurait quelque part, comme ça, la clé qui me reliait au livre, à la réalité. Et qui est peut-être ce que j'ai imaginé n'était pas une pure imagination et qu'il y a une suite aussi.
On va écouter la voix de Margot, auditrice du Book Club. Elle vous a lu Ryoko Sekiguchi, précisément lu, peut-être même entendu, et elle vous pose une question.
Bonjour le Book Club et bonjour Ryoko Sekiguchi. Alors merci pour Venise mille fleurs. C'est une lecture que j'ai choisi de faire lentement, de manière à la laisser se diluer temporairement. Et j'ai aimé aussi cette sensation d'arpenter et découvrir en bonne compagnie Venise, à la fois si connue et méconnue, dont on a l'impression de découvrir l'âme végétale, l'esprit en archipel et fragments, et de la voir s'ouvrir à nous par vos sensations et par votre écriture organique aussi documentée que sensible. En japonais, il existe un genre littéraire, kikigaki, je crois, que l'on a traduit comme l'écriture de l'écoute. Et ma question serait celle-là, vu les sens qui se réouvrent grâce à vous, j'aimerais savoir s'il existerait un mot pour définir votre travail dans ce livre qui développe de nouvelles capacités de perception. Merci de votre réponse.
C'est très précis. Merci à vous, Margot, pour cette lecture et pour cette question. Alors déjà, peut-être un mot, si vous voulez bien, Ryoko Sekiguchi, sur le genre littéraire évoqué par Margot. Kikigaki, de quoi s'agit-il? Et puis ensuite, est-ce qu'on a un autre mot à disposition pour décrire ce que vous avez fait avec Venise mille fleurs?
Alors, Kikigaki, donc la littérature de l'écoute, on pourrait le traduire comme les livres de témoignages ou bien de reportages, mais beaucoup plus large que ça. Et c'est vrai que c'est ce que je crois pratiquer pour mon écriture et à la réponse à la question, je pense que je continuerai à dire que c'est une sorte de littérature de l'écoute parce que les cinq sens ne sont pas si séparés et séparables que cela. Il y a tant d'animaux, par exemple, qui reconnaissent la présence des autres animaux par le biais de toucher ou bien de goûter. Il y a une certaine loge par antenne pour sentir, pour goûter en fait le goût de l'eau, la présence d'un autre animal qui est loin de lui, par exemple. Et donc, je pense que c'est vrai que pour ce livre, non seulement j'ai écouté beaucoup j'ai récolté beaucoup de témoignages des Vénitiens, mais je pense que j'ai écouté beaucoup des voix de l'eau, des plantes. Je me suis souvent penchée, mais vraiment au ras du sol, pour entendre ce que disaient les abou-folles aussi.
Donc, oui, vous avez aussi considéré cette lagune comme étant un biotope à part entière. Qui vit là? Qui s'y développe? Qui pousse? Qui nage? Ça vous a aussi intéressé, l'aspect très, très biologique, très concret, quasi scientifique, en fait, de cet endroit.
Ah oui, mais c'est une île. En fait, c'est un endroit très, 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 très animé, en fait, dans ce sens-là. Donc, on n'est jamais seul à Venise.
Vous avez commencé votre livre en disant « Tout a commencé par une plante ou par une main qui la touche ou par les deux ». Et peut-être pour poursuivre la question de Margot qui parle d'une littérature de l'écoute, s'attarder aussi sur ce que vous faites des récits et de la puissance des récits. J'écris pour que rien ne meure, dites-vous, Ryoko Sekiguchi. Et vous évoquez notamment cette ville qui accueille des très grandes manifestations artistiques. Et vous évoquez une œuvre de Boltanski en disant « En la racontant, en racontant la manière dont cette œuvre s'est installée dans Venise, je vais contre son caractère éphémère et je la fais perdurer. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette œuvre-là ?
C'est une œuvre qui consistait à faire entendre les aboiements de chiens et qui d'une île lointaine, tout est relatif, de Venise, mais qu'on entend les sons. Donc c'était comme si en fait il y avait tout un coup en fait une île remplie de chiens et donc c'est une légende que qu'il voulait créer en forme de pièce d'art et il paraît que donc lui-même il n'aimait pas trop cette pièce, il n'était pas très satisfait de cette pièce donc mais c'est trop tard quoi. je l'ai raconté donc voilà ça va exister mais bien sûr il y avait cette caractère d'archivage et comme une sorte de pièce de la maison pour garder des choses importantes, dont l'acte de d'écriture, mais aussi, encore une fois, comme j'ai dit, j'aimerais que aujourd'hui, qu'un livre fasse ce genre de pont, non seulement qui une maison qui accueille les voix, mais aussi peut-être cette voix par la suite pour agir sur... Encore une fois, sur ce monde-là, sur ce monde dans lequel on vit et je voudrais vraiment que Venise, c'est une sorte de livre collectif et engagé pour moi.
Sur la ville de Venise, pour la ville de Venise.
Pour la ville de Venise.
Pour qu'elle vive, quoi.
Pour qu'elle vive.
Vous évoquez d'ailleurs, et peut-être ce serait le contrepoint ou pas, une île de cet archipel qui est une île cimetière. D'une certaine manière, d'autres voies pourraient monter de cette île cimetière et aller vers les autres îles de Venise. Comment est-ce que vous la regardez, cette île cimetière, Ryoko Sekiguchi ?
Saint-Michel, mais vous savez qu'il y a plein d'arbres et les sons de cloches qu'on entend est particulièrement beau à Saint-Michel et j'ai fait une petite enfin je dois faire une confession ici que
il y a deux trois personnes qui vous écoutent
hein. Oh là là. Ah oui, alors j'ai fait une sorte de petite performance, j'ai semé quelques graines à côté de tombeau de compositeur Luigi Nono qui est une tombe qui est d'ailleurs construite par Arata Isozaki, donc l'architecte de japonais qui est recouvert de plantes. Donc déjà, si je sème quelques...
Vous avez rajouté quelques plantes par-dessus les plantes.
Voilà.
Le book club continue. Et à cette heure-ci, dans le Book Club, on ouvre un agenda, non pas un herbier. Nous relayons quelques dates et lieux d'événements en lien avec les livres, la lecture, l'écriture. Vous pouvez nous envoyer des informations via l'adresse mail du Book Club, lebookclub@radiofrance.com. C'est aussi une adresse mail où on reçoit tous vos courriers. Ça nous fait toujours plaisir. On est toujours très curieux et curieuses de vous lire. Alors, on voulait vous parler du Festival du Livre de Jeunesse Occitanie qui se tient du 14 au 25 janvier 2026 et particulièrement le week-end des 24 et 25 janvier dans l'ordre. C'est un festival qui pose ses valises au lycée Pierre-Paul Riquet de Saint-Orens-de-Gameville pour la 24e édition. Et cette année, la poésie s'invite dans la littérature jeunesse avec le thème « Tout un poème ». Près de 30 auteurs et autrices, illustrateurs, illustratrices sont là pour partager leurs passions, leurs secrets de création et faire voyager les visiteurs à travers 1000 mondes imaginaires, nous dit-on. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce festival? Des ateliers d'illustration, d'écriture, des expos, des spectacles, des lectures, des rencontres et dédicaces, évidemment, et même des débats pour échanger autour de la littérature jeunesse. Et puis, le festival rayonne dans plusieurs communes de Toulouse Métropole avec des animations en bibliothèque, en librairie, dans les écoles. Et puisque je parle d'école, les jeunes lecteurs et lectrices auront leur mot à dire avec deux jurys qui décernent le prix des enfants du livre et le prix des ados. Festival du livre de jeunesse Occitanie. On mettra évidemment le lien vers le festival livrejeunesse.fr sur la page du Book Club franceculture.fr. J'en profite pour glisser que vous pouvez entendre parler de littérature jeunesse grâce à Mathilde Wagman et sa chronique Lecture jeunesse, pareil, franceculture.fr.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Alors, on a beaucoup parlé avec vous, Ryoko Sekiguchi, de littérature de l'écoute et de tout ce à quoi vous avez tendu l'oreille, même si cette aventure et ce rapport à cet herbier du 19e commencent par le toucher et le caractère extraordinairement sensuel de cette rencontre. Si vous tendez l'oreille, vous allez probablement reconnaître le fameux Luigi Nono. Dans cette dernière séquence qui s'appelle « Le grand jeu des pages musicales », nous cherchons la musique dans les livres. On en a trouvé et c'est pas exactement un bon souvenir pour vous, vous allez voir. Je pensais avoir visité pas mal d'endroits durant mes séjours, la thématique de mon livre m'incitant à être souvent à l'extérieur, mais je pris conscience que je n'étais jamais encore allée au théâtre, la Fenice. D'habitude, je fréquente régulièrement les salles de concert, mais à Venise, j'avais privilégié avant tout les lieux susceptibles d'avoir intéressé Ilaria, mettant de côté mes propres centres d'intérêt. À bien y réfléchir, cependant, il n'y avait pas de raison qu'Ilaria n'y soit jamais allée. Construit à la fin du XVIIIe siècle, le théâtre a subi un incendie en 1836, avant d'être aussitôt reconstruit et d'accueillir par la suite plusieurs chefs-d'œuvre de Giuseppe Verdi. Ce lieu devait être l'objet de bien des conversations parmi les Vénitiens de l'époque. D'ailleurs, les écrits d'Ilaria se concentrent surtout autour des années 1830 et 1840. En me rendant compte de cela, lors de mon dernier séjour, j'ai acheté un billet pour l'hiver. Il n'y avait pas de représentation d'opéra à cette période, mais un concert était programmé, une œuvre majeure, dirigée par le chef d'un ensemble de musique baroque réputé et dans le rôle principal, un chanteur confirmé. Mais tout au long du concert, j'ai dû essayer de comprendre sans y parvenir ce à quoi j'étais en train d'assister. Qu'est-ce qui s'était passé ce soir-là, dans cette salle de concert, Ryoko Sekiguchi?
Ce qui s'était passé, je pense que malheureusement, c'est le fruit, enfin le résultat de sur-tourisme. Il y avait beaucoup de gens, en fait, qui étaient là juste pour voir le théâtre de La Fenice et pour prendre les photos, selfies
et ne pas écouter la musique.
Ne s'intéressait absolument pas à la musique. Et il paraît que c'est malheureusement ce qui se passe souvent à l'Opéra Garnier.
Ah bon?
Ouais.
Moi, je n'y mets pas assez souvent les pieds, alors. En tout cas, vous voulez que les choses vivent, y compris les salles de théâtre et les opéras. Venise, mille fleurs, c'est le titre de votre premier roman, alors.
Oui.
Félicitations, merci. Ryoko Sekiguchi, paru aux éditions POL. Merci d'avoir été au micro du Book Club pour en parler. Au son, aujourd'hui, c'était Ludovic Auger, à la réalisation Vivien Demeyer. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club, en particulier aujourd'hui à Garance Roubieux. Et rendez-vous, si vous le voulez, sur le compte Instagram du Book Club pour poursuivre la conversation animée par Alexandre Alaibekovitch.